Bienvenue à vous tous qui nous écoutez, ici Jonathan Chignon et je dois dire que je suis très content de vous retrouver pour animer ce 6e épisode du Family and Business Podcast. Le thème que je vous propose de traiter aujourd'hui est, comme souvent dans les entreprises familiales, à cheval entre les deux mondes, c'est-à-dire la stratégie d'entreprise et de l'autre côté la stratégie des actionnaires. C'est un thème que nous avons l'habitude d'évoquer chez Family & Co, notamment sous forme de formation aux actionnaires familiaux. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Benoît Pellerin. Benoît, merci d'accepter de participer au Family & Business Podcast.
Bonjour Jonathan.
Avant de commencer, et c'est un passage obligé Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis donc partenaire chez Family & Co depuis quelques années. J'interviens donc régulièrement sur des missions. J'ai développé moi-même et dirigé une PME avec notamment des fonds d'investissement minoritaires à mes côtés. Et puis, lorsque j'ai revendu cette entreprise, j'ai investi moi-même également dans des fonds, notamment des fonds régionaux. J'ai présidé le comité d'investissement d'un fonds plutôt orienté vers l'innovation. Donc voilà, donc ce sont des questions que je maîtrise assez bien.
Merci Benoît. Et pourquoi est-il important d'évoquer ensemble aujourd'hui ce sujet des opérations en capital ?
Alors, ce sujet est important en période de croissance, bien sûr. D'ailleurs, BPI vient de publier une étude très intéressante sur la croissance externe des entreprises françaises qui montre qu'elles ont beaucoup recours à ce type d'opération. Et puis, c'est un sujet également très important en temps d'incertitude économique comme celui vers lequel nous nous dirigeons, inflation, énergie, etc. Alors, les entreprises familiales, effectivement, sont bien armées, souvent, en termes de cash, de capitaux propres, de vision à long terme. Mais les opérations en capital doivent être toujours présentes à l'esprit, car elles peuvent être des outils qui permettent de saisir des opportunités ou d'accélérer en sortie de crise.
Vous comprenez que c'est un sujet d'actualité, et j'ajoute qu'à l'étude des statistiques de notre autodiagnostic, accessible sur le site Family & Co, on découvre dans ces résultats trois éléments assez parlants. 74% des répondants indiquent qu'il n'existe aucun système permettant une liquidité du capital dans l'actionnariat. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Oui, alors ça pose en effet une question intéressante qu'on aborde régulièrement dans nos missions, qui est celle du capital pertinent, c'est-à-dire quel est le bon niveau de capital, la bonne configuration de la détention. Et ça pose une deuxième question qui est la respiration du capital. On le voit, nous, régulièrement dans nos missions. C'est très important pour que les actionnaires se sentent à l'aise et pour renforcer la cohésion, qu'il y ait des dispositifs de liquidité partielle qui permettent de faire respirer le capital.
Et alors, la deuxième statistique que je voulais évoquer, c'est 57% des répondants souligne l'absence d'une stratégie actionnariale commune, claire et communiquée au sein des actionnaires. Et la dernière, c'est 84% des répondants émettent des doutes sur le fonctionnement de l'actionnariat, des doutes sur la cohérence par rapport au projet d'actionnaire, par exemple.
Oui, alors ça, c'est un sujet aussi qu'on rencontre beaucoup, parce que le projet de l'actionnaire et la façon dont il est mené et animé sont particulièrement importants pour prendre des décisions structurantes. Or, une opération en capital, évidemment, c'est une opération complexe, souvent, et très structurante. Elle engage pour plusieurs années. Et donc, pour qu'elle soit menée à bien et que l'ensemble des actionnaires y adhèrent, qu'il l'ait bien comprise, qu'elle soit bien acceptée, il faut avoir à la fois un projet d'actionnaire clair et une animation du projet qui soit bien construite. Deuxième idée, peut-être qu'on peut dire, c'est que l'actionnaire familial, il doit agir en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire dans l'action. Dans l'actionnaire, il y a action vis-à-vis de ces questions. Donc, il doit décider, prendre position, prendre des options, etc. Et pour ça, il doit être éclairé. Et pour être éclairé, il faut qu'il en ait une bonne compréhension. Donc, souvent, il faut prévoir également une formation de l'ensemble des actionnaires qui, sur ces questions, ont souvent des niveaux d'information, de compréhension différents pour que tout le monde soit au même niveau et comprenne bien ce que veut dire telle ou telle opération structurante.
Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, peut-on revenir sur pourquoi procéder à des opérations sur le capital ? Pourquoi c'est important pour les actionnariats de poser cette question-là ?
Alors, il y a deux grandes raisons pour lesquelles il faut se poser la question d'une opération en capital. La première, c'est des opérations qui sont principalement au service de l'entreprise et du business. Par exemple, pour financer la stratégie, financer des investissements, financer des investissements matériels ou marketing, commerciaux et autres. Donc, renforcer à ce moment-là les fonds propres. Ça peut être aussi pour nouer des alliances, hein, trouver des partenariats, identifier des opportunités de croissance, etc. Donc, au service de l'entreprise et du business. Et puis, il y a une deuxième famille d'opérations. Ce sont les opérations qui sont principalement au service de l'actionnaire. Et là, on peut citer au moins quatre idées. La première, c'est augmenter la rentabilité des capitaux investis. Donc, ça peut être pour une entreprise qui dispose de pas mal de cash flow ou même de cash disponible, de faire du cash out, hein, donc ramener de l'argent aux actionnaires de manière à ce que les capitaux investis soient plus rentables. Ça peut être organiser le contrôle, toutes les opérations qui visent à créer des holdings, créer des outils qui permettent soit de centraliser, soit de décentraliser le contrôle, de regrouper des droits de vote, etc. Tout ça, ce sont des opérations capital. Ça peut être d'organiser la liquidité intrafamiliale, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, la respiration du capital. Donc ça peut être dans un fonctionnement, disons, régulier, normal, habituel, sur une petite portion du capital, ce qui permet à chacun d'avoir un peu de souplesse dans sa façon d'immobiliser son capital. Mais ça peut être aussi, lors d'opérations un peu plus importantes, de réorganisation, quand une branche veut sortir, ou quand on n'est plus d'accord sur la stratégie, il faut séparer une partie de la famille. Donc ça, ce sont des opérations de liquidité intrafamiliale. Et puis évidemment, le cas le plus fréquent, c'est la transmission, qui peut être en famille, bien sûr, mais ça peut être aussi en famille partiellement, à des tiers, etc.
Quelles sont les questions? Donc, on a bien compris qu'il y avait deux grands objectifs pour l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, et pour les actionnaires. Quelles sont les questions que doivent se poser les actionnaires familiaux lors de l'entrée d'un tiers au capital des entreprises?
Alors, effectivement, l'opération en capital, ça se traduit par l'entrée d'un tiers au capital, hein, qu'il soit un fonds, un fonds d'investissement, je veux dire, un institutionnel, ça peut être aussi un family office, ça peut être un partenaire industriel, mais généralement, c'est ça. Il y a quelqu'un qui rentre au capital, qui n'était pas au capital auparavant. Alors, les questions qu'il faut se poser, j'en ai listé six. La première, c'est la pertinence de l'opération proposée au regard de la stratégie. Donc là, on revient au projet. C'est très important de re-questionner le projet à ces moments de réflexion pour être bien sûr que ce que l'on va faire, ce que l'on va proposer, sur quoi on va s'engager est bien cohérent avec le projet qu'on a défini et que tout le monde, tous les actionnaires présents le partagent. La deuxième question, c'est bien comprendre quel est le pari opérationnel qui est poursuivi avec cette opération. Je prends quelques exemples. Est-ce que c'est d'abord un effet de levier financier, hein, pour améliorer la rentabilité, par exemple? Est-ce que c'est plutôt d'accélérer la croissance en faisant une acquisition ou en faisant des investissements? Est-ce que ce sont des synergies que l'on recherche avec éventuellement un partenaire? Quel est le calendrier? Quelle est la cohérence avec ma vision en tant qu'actionnaire, ma compréhension de l'entreprise et avec les risques, entre guillemets, que je suis disposé à prendre? La question numéro 3, ce sont les avantages et les risques pour l'entreprise et pour l'actionnaire de la solution proposée. Est-ce qu'elle va se traduire par une relution, par exemple, hein? Est-ce que le niveau d'endettement à l'issue de l'opération sera acceptable? Est-ce que ça va limiter mon autonomie stratégique? Est-ce que ça va avoir un impact sur les dividendes? Et quel est surtout l'engagement que l'on prend pour l'étape d'après? Parce qu'une opération comme ça, elle est conçue pour durer quelques années, 5, 7, 10 ans, quelquefois plus. Mais à l'issue de cette étape, il doit être prévu une étape d'après, qui peut être la sortie de l'investisseur, qui peut être la manière dont les liens vont se dénouer, etc. Et à chaque fois, ce sont des engagements. Ensuite, une question très importante, c'est quel processus on va utiliser, quel processus on va mener pour identifier le meilleur montage et surtout les bons partenaires. le ou les bons partenaires. Alors, aujourd'hui, il y a énormément de fonds d'investissement, d'acteurs qui peuvent intervenir dans des opérations de capital de toute nature. Hein. On en compte des nombres environ 500 en France. Et donc, il est possible, entre guillemets, de trouver chaussure à son pied. Simplement, il faut bien réfléchir, bien vérifier, bien consulter, bien faire connaissance avec les potentiels investisseurs, de manière à être sûr qu'on partage bien sûr le projet, mais qu'on partage aussi la stratégie, qu'on partage un certain nombre de valeurs, parce que sinon, c'est comme un mariage, hein, ça va durer quelques années, donc il faut être prêt à vivre des moments difficiles ou des moments plus heureux, mais en tout cas, il y aura forcément des moments de friction. Et enfin, il faut absolument vérifier qu'on a un accord sur la manière dont la sortie va se dénouer. Hein, et ça, c'est vraiment très important aussi, dès le début. L'autre point sur lequel il faut être d'accord, c'est la gouvernance. Comment est-ce que va s'organiser la gouvernance entre l'actionnaire actuel, familial, et l'actionnaire nouveau qui va entrer. Hein, donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, mais c'est important pour que ce soit efficace, qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne transparence, et que la confiance s'installe. C'est ça qui fera le succès de l'opération.
C'est pour revenir sur ce point-là, c'est un sujet qui peut faire peur d'ailleurs les actionnaires d'entreprise familiale, et c'est un sujet pourtant qui leur permet de se professionnaliser pour ceux qui ne le sont pas encore. Et donc l'entrée permet aussi d'améliorer sa gouvernance, puisqu'on va faire entrer une personne un peu indépendante. Et donc c'est un grand pas pour l'actionnaire familial.
Oui, c'est tout à fait vrai. Hein. L'investisseur, bah, c'est généralement quelqu'un qui a une vision différente, soit un prisme financier, soit un prisme industriel, soit un prisme de family office. Et donc une vision différente, complémentaire de celle de la famille, des dirigeants, et qui peut apporter beaucoup. Il peut apporter aussi par son réseau, et il apporte en tout cas par sa méthode, hein, et par la méthode et la façon dont la gouvernance va vivre. Donc c'est important de bien se comprendre dès le début, et si ça marche bien, c'est vrai que c'est souvent très, très bénéfique pour l'entreprise.
Est-ce qu'il existe des alternatives aux opérations en capital pour les mêmes objectifs ?
Alors, il existe d'autres manières d'atteindre les mêmes objectifs. Ce sont des opérations qu'on va appeler non dilutives, donc elles ont l'avantage de ne pas modifier l'équilibre actionnarial. Mais évidemment, elles ont d'autres contraintes ou d'autres inconvénients. Alors, on peut citer évidemment la plus simple, c'est d'obtenir des subventions. Ah, alors ça, tous les métiers ne sont pas éligibles de la même manière, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont très habiles à la recherche de subventions, et c'est quand même le meilleur moyen de trouver des financements pour mener des opérations de développement de l'entreprise qui soient non dilutives. La deuxième façon de faire, ça peut être de céder des actifs. On peut arbitrer, dire voilà, ma priorité c'est tel investissement, et donc pour financer cet investissement, je cède un actif, je cède une activité. Là, évidemment, la contrepartie, c'est qu'on s'appauvrit, entre guillemets, on diminue son portefeuille d'activités, et donc on va plutôt céder des actifs non stratégiques. Et enfin, la manière la plus classique de répondre à ces questions non dilutives, cette démarche non dilutive, c'est la dette. Donc, les points à regarder, ben, c'est l'équilibre financier de l'entreprise. Est-ce qu'elle est capable de rembourser sa dette, son volume d'endettement par rapport aux capitaux propres, sa capacité de remboursement et notamment la planification des échéances qui est importante. Regardez aussi, et là c'est un sujet tout à fait d'actualité, quelle est la sensibilité de l'entreprise et de l'endettement au risque de taux, hein, d'évolution des taux d'intérêt. Puisque très vite, si les taux d'intérêt montent, il peut y avoir, suivant la structure de la dette, des remboursements qui s'envolent, et donc une mise en difficulté de l'entreprise. Et enfin, vérifier surtout qu'il y a une large diversification, hein, c'est souvent la règle de base, mais large diversification des prêteurs, des échéances, des types d'emprunts, de manière à là aussi bien équilibrer l'endettement de l'entreprise, pour qu'il n'y ait pas de difficultés ou d'accidents.
Super, merci Benoît, merci pour ce tour d'horizon. Un petit mot pour les actionnaires familiaux, justement sur ce sujet, pour conclure.
Oui, alors ben, pour les actionnaires familiaux, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il existe beaucoup de solutions pour mener des projets d'actionnaires, des projets de l'entreprise. Toutes ces solutions ont à chaque fois des avantages et des inconvénients, ou présentent la nécessité de s'engager sur un certain nombre de choses, et que finalement tout est une question à la fois d'équilibre et de mesure du risque au regard du projet des actionnaires.
Merci, merci beaucoup d'avoir participé à ce sixième épisode du Familial Business Podcast, et on se retrouve en octobre pour un nouvel invité. À bientôt.
Merci Jonathan.